France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Iran s'embrase, des manifestations dans de nombreuses villes du pays hier soir, dont une massive à Téhéran, la capitale. 28 morts civiles depuis le début du mouvement selon deux ONG. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, obligé de s'exprimer ce matin. Le point dans un instant. S'agit-il d'un début de révolution? Nous poserons la question à notre invité qui sera avec nous dans quelques minutes. À suivre encore, le Mercosur, le traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Accord validé par les 27 ce matin.
Effectivement, c'est ce qui ressort d'un premier tour de table que viennent de faire les 27 représentants des États membres. Un vote formel devrait le confirmer en fin d'après-midi.
On vous retrouve dans quelques minutes en direct de Bruxelles. Et puis à partir de 13h30, nous serons avec l'homme qui a longtemps mené ces négociations, Jean-Luc Demarty. Et vous pouvez dès maintenant lui poser vos questions 01 45 24 7000. Le soulagement en Bretagne et en Normandie, la tempête Goretti est passée. Les dégâts sont moins importants que redoutés. Ici à Bréa.
Bah heureusement, chez moi, il n'y a pas d'arbres, donc rien n'est tombé, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Ouais. Bah, c'est pas la première, et c'est pas la dernière.
320 000 foyers toujours privés d'électricité, principalement en Normandie, nous y serons également. Et nous nous demanderons comment on calcule les bouchons sur nos routes. Aujourd'hui, c'est quand on roule à moins de 30 km/h. Ça explique aussi les gros chiffres de ces derniers jours. 13h50, c'est la France. Virginie Troussier a fait sa liste de courses pour 2026. Mais là, on parle de courses en montagne. Et puis, juste avant 14h, c'est une chanson exceptionnelle aujourd'hui, la millième.
Bonjour, c'est Caroline Loeb. Je suis très heureuse de faire partie des 1000 interviews de Frédéric Pommier. Bon anniversaire.
Avec d'autres surprises autour, évidemment, de Frédéric. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le pouvoir des mollahs en Iran est-il en train de vaciller? Le mouvement déclenché fin décembre contre la vie chère a pris ces derniers jours une tournure plus politique et surtout hier soir une plus grande ampleur avec des rassemblements dans une cinquantaine de villes du pays. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Et surtout cette foule compacte à Téhéran, la capitale.
Oui, comme ici, boulevard Ayatollah Khachani dans l'ouest de Téhéran. Sur des images diffusées par des chaînes de télévision persanes basées en dehors de l'Iran et d'autres médias sociaux, images qui ont été authentifiées, on voit une foule de manifestants à pied scander mort au dictateur ou pas la vie reviendra, en référence au fils du dernier Shah qui vit en exil et qui avait lancé un appel à manifester hier soir. D'autres quartiers de la capitale iranienne ont été investis par les protestataires. En réalité, toute la ville était hier soir en ébullition. Et le mouvement ne se limite pas à Téhéran. D'importantes manifestations se sont déroulées à Tabriz, dans le nord de l'Iran, ou dans la ville sainte de Mashhad, à l'est, ville d'où est originaire le guide suprême. Des localités plus petites sont également touchées, comme Babol, dans le nord-est, ou Khorramabad, à l'ouest. En fait, si l'on doit faire une cartographie du mouvement, il n'y a pas une région qui ne soit épargnée par la protestation. Et comme à chaque fois que les mouvements de contestation prennent de l'ampleur, le régime applique une censure stricte. Internet est coupé depuis hier soir sur l'ensemble du territoire iranien. Impossible de passer des appels avec des mobiles ou d'envoyer des SMS. La dernière coupure totale d'Internet remonte à 2019. Lors de la vague de contestation déclenchée par la hausse des prix de l'essence, elle avait duré 12 jours.
Merci Valérie Crova. Conséquence également, la compagnie aérienne Turkish Airlines annule aujourd'hui tous ses vols au départ d'Istanbul et à destination de l'Iran. Alors cette mobilisation qui grossit a contraint ce matin le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à prendre la parole à la télévision d'État. Il voit la main des États-Unis derrière ces manifestations.
Manifester est légitime, mais ce n'est pas la même chose que semer le chaos. Nous dialoguons avec les protestataires. Ils doivent pouvoir s'exprimer. Mais avec les fauteurs de troubles, parler ne sert à rien. Les fauteurs de troubles, il faut les remettre à leur place. Que cela soit clair pour tout le monde, la République islamique, arrivée au pouvoir au prix du sang de plusieurs centaines de milliers de personnes honorables, ne reculera pas face à ceux qui la détruisent.
Ali Khamenei, traduit par Omar Waman. Bonjour Clément Terme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes chercheur, spécialiste de l'Iran. Vous avez publié l'an dernier « Idées reçues sur l'Iran, un pouvoir à bout de souffle » aux éditions Le Cavalier Bleu. Qu'est-ce qu'en termes, est-ce un tournant à quoi on assiste depuis hier soir ?
Alors oui, parce que pour la première fois, il y a à la fois les grandes villes qui manifestent en masse. Ça, on ne l'avait pas vu depuis 2009, le mouvement vert. Des milliers de personnes dans les rues de Téhéran. Et c'est en réponse à un appel de l'opposition iranienne, donc du prince héritier Reza Pahlavi, le fils du dernier roi d'Iran, le Shah, Mohamed Reza Pahlavi. Donc c'est une situation qui est inédite en lien avec cet événement-là, et aussi parce qu'en même temps, il y a des petites villes qui manifestent, l'ensemble des régions sont touchées, des périphéries qui jusqu'à présent, dans les différents mouvements de protestation depuis 2009, 2017, 2019, 2022, 2023, n'avaient pas forcément été touchés. Donc on est quand même dans une situation où il y a un risque pour le régime, aussi parce que l'économie est en difficulté et que même les forces de sécurité sont atteintes par la crise économique. Donc il y a, dans un contexte où les ressources s'amenuisent, la question de la loyauté des forces de sécurité qui, si le mouvement se poursuit, pourrait se poser au cours des prochains jours.
Est-ce que c'est la politique de Donald Trump et des États-Unis qui accule le pouvoir iranien aujourd'hui ?
Alors ça, c'est le discours de la République islamique et du guide suprême qui utilise le facteur externe pour justifier la répression à l'intérieur et pour présenter le mouvement social interne comme le fruit d'une politique des États-Unis et d'Israël. Donc il y a la volonté de l'État de la République islamique de présenter ce mouvement populaire comme téléguidé, entre guillemets, depuis les États-Unis. Donc il y a ce jeu-là pour masquer finalement une vulnérabilité de la République islamique, qui est que la solution aux problèmes économiques du pays passe nécessairement par un rapprochement avec les États-Unis. Donc en fait, pour sortir de cette impasse idéologique, le guide est dans une surenchère sécuritaire et idéologique et accuse la main de l'étranger, alors que les manifestations, ce mouvement, naît d'abord de mécontentement interne.
Je reprends le sous-titre, Clément Terme, de votre dernier livre, Un pouvoir à bout de souffle. Est-ce un pouvoir qui pourrait tomber dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ?
Alors, c'est la question du point de bascule. C'est le moment à partir duquel ceux qui sont à l'intérieur du régime, qui sont en charge de garantir la sécurité des dirigeants de la République islamique, donc l'appareil de sécurité, la majorité de ses membres va décider de fraterniser avec les manifestants. Donc cela pourrait être possible si les factions politiques se divisent à l'intérieur, ce qui est possible que face à la crise qui perdure, finalement, les factions se divisent à l'intérieur du système et s'affrontent entre elles. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit. Même en 2009, ils avaient réussi à exclure le candidat Moussavi, à l'époque du Mouvement Vert, qui était un dissident interne. Et il avait purgé le système, finalement. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que les forces de sécurité en masse se joignent aux manifestants et qu'ils refusent d'obéir. Si une tuerie de masse est ordonnée, on voit déjà qu'il y a plusieurs dizaines de morts. Il y a cette coupure Internet qui permet une répression massive, mais il y a le risque de désobéissance des membres des forces de sécurité si la crise perdure.
Merci pour cet éclairage en direct dans ce 13-14 sur France Inter. Clément Terme, je renvoie à votre livre édition Le Cavalier Bleu, Idées reçues sur l'Iran, un pouvoir à bout de souffle. Merci d'avoir été avec nous. L'Iran, allié de la Russie dans sa guerre en Ukraine, il y a eu plusieurs frappes russes la nuit dernière sur Kiev, à tel point que la moitié des immeubles de la capitale sont privés de chauffage, selon son maire, qui demande même aux habitants de Kiev qui le peuvent de quitter temporairement la ville. Il fait actuellement moins 8 degrés à Kiev. Les Russes ont aussi utilisé la nuit dernière un missile hypersonique baptisé Oreshnik et qui est tombé dans la région de Lviv. Les Ukrainiens en ont diffusé les images de débris il y a quelques minutes. Des Ukrainiens qui, de leur côté, ont frappé la région russe de Belgorod et selon les autorités locales, 500 000 personnes y sont privées d'électricité et de chauffage. Et puis on retiendra aussi de cette matinée les mots du pape Léon XIV lors de ses premiers vœux au corps diplomatique du Vatican. La guerre est revenue à la mode et une ferveur guerrière se répand, déplore le pape américain Léon XIV. L'heure de vérité pour le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. Les négociations débutées en 1999 sont sur le point d'aboutir à un accord. Pas unanime, on sait que la France est contre, mais un accord tout de même. Fabien Cazot, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Accord validé, c'est fait.
Effectivement, les 27 représentants permanents des États membres à Bruxelles viennent d'approuver ce midi oralement la signature de cet accord commercial avec le Mercosur. Un feu vert qui doit encore être confirmé par un vote formel d'ici 17h, mais qui n'est pas une surprise. On savait que la France ne disposait plus de suffisamment d'alliés pour faire pencher la balance en faveur du non. D'autres grands pays européens comme l'Allemagne et l'Espagne, très favorables à la signature de ce traité, ne voyaient d'ailleurs dans le vote d'aujourd'hui qu'une simple formalité.
Le traité va-t-il maintenant rapidement entrer en vigueur ?
Oui, de manière provisoire. Ses partisans veulent aller vite. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait faire le voyage pour aller le signer au Paraguay en début de semaine prochaine. De son côté, la présidence du Conseil a retiré hier en dernière minute une déclaration qui devait également être soumise au vote des 27 aujourd'hui, prévoyant que l'accord ne puisse pas s'appliquer même de manière provisoire avant d'être validé par le Parlement européen. Cela pourra donc être finalement le cas, du moins jusqu'à ce que le Parlement prenne officiellement position sur le sujet dans les prochaines semaines.
Merci Fabien Cazot. Les agriculteurs opposés au texte continuent de se mobiliser en Pologne ce matin dans les rues de Varsovie, mais aussi en France. Les autoroutes A27 et A2 bloquées dans le nord vers la Belgique. Des blocages ce matin en Bourgogne, en Lozère, dans le Tarn, sur le port de Bordeaux, à Bassins. Également, l'accès au dépôt de carburant reste empêché par des agriculteurs de la coordination rurale, même si les leaders de la coordination rurale appellent désormais les agriculteurs à rentrer chez eux. C'est pas le même discours du côté d'un autre syndicat, la Confédération paysanne, plus à gauche. Eux tentent de poursuivre l'action à Paris. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Vous les attendez près des Champs-Élysées, mais deux de leurs porte-parole ont été interpellés ce matin.
Oui, à l'Arc de Triomphe, où je me trouve avec des agriculteurs de la Confédération paysanne, c'est le sentiment de colère et d'injustice qui prédomine. Les manifestants devaient être rejoints par des tracteurs toujours bloqués actuellement, porte-maillot par les forces de l'ordre. Ici, les gendarmes et policiers les ont encerclés. Deux des porte-parole, vous l'avez dit, Thomas Gibert et Stéphane Gallet, ont été interpellés avec une violence inadmissible, dénonce Fanny Metra, la troisième représentante nationale de l'organisation syndicale.
Il y a deux jours, avec Stéphane Gallet et Thomas Gibert, on était à Matignon, reçus par le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce. Et c'est même Le Cornu qui nous a clairement dit, il va falloir se battre pour contrer le Mercosur, il va falloir descendre dans la rue. Aujourd'hui, les deux porte-parole de la Confédération paysanne nationale sont mis à terre et embarqués par les forces de l'ordre. C'est d'une hypocrisie sans nom.
Motif invoqué par les CRS, violence contre les forces de l'ordre, refus de contrôle d'identité et rébellion, motif que conteste vivement la Confédération paysanne. Les agriculteurs venus des quatre coins de la France voulaient simplement, disent-ils, manifester pacifiquement. Parmi eux, Stéphane Le Gall, éleveur de bovins dans le Finistère.
Nous sommes montés à Paris pour défendre notre cause. J'élève des limousines en système herbager. Et c'est sûr qu'on est très inquiets de la suite, notamment le Mercosur, qui nous pose beaucoup de questions sur notre avenir.
Qu'est-ce qui vous inquiète avec le Mercosur, vous, personnellement, en tant qu'éleveur de bovins ?
C'est que demain, en fait, on fasse le choix de la viande pas chère et puis que la viande française devienne hors de la réalité économique.
L'accord de libre-échange avec les pays sud-américains qui pourrait être signé dès lundi. L'autre motif de contestation, toujours la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse avec l'abattage total d'un troupeau quand une bête est malade.
Merci Mariam El Kurdi. Alors la bataille est menée par quelques agriculteurs encore, elle est aussi politique. Le Rassemblement National et la France Insoumise ont annoncé ces dernières heures le dépôt de deux motions de censure distinctes dans le but de renverser le gouvernement, notamment donc sur cette question du Mercosur. Réaction du Premier ministre Sébastien Lecornu, ce sont des postures cyniques, partisanes qui retardent les discussions budgétaires. Fin de citation. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Bon, on entend beaucoup les opposants à cet accord, on entend beaucoup moins ceux qui y sont favorables, car il va leur profiter économiquement, ils vont vendre davantage vers l'Amérique latine. De qui s'agit-il ?
Alors on pourrait parler du luxe, hein, l'aéronautique, la chimie, la cosmétique, dont on imagine bien qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Toutes ces branches se font très discrètes, effectivement, et pour vous dire, elles se sont même retenues mi-décembre, lorsque les agriculteurs ont commencé à descendre dans la rue, sur les routes. La question s'est posée de publier une tribune commune pro-Mercosur avant Noël, mais la crainte de mettre une pièce dans la machine et d'alimenter, je cite, des forces politiques favorables au chaos, ont poussé les partisans d'une communication à se taire, à se réfréner. On sait qu'une plus grande ouverture du marché sud-américain constituerait pourtant une aubaine pour les vins et spiritueux, la filière laitière française aussi, qui exporte chaque année 40% de sa production, mais pas question de le crier sur tous les toits dans le contexte actuel, avec des agriculteurs chauffés à blanc. Même les cosmétiques dont je vous parlais, qui ont des parts de marché à dégager au Brésil, ne font pas ou plus vraiment ouvertement la publicité du Mercosur.
Explication signée Maxime Debs. Le nord-ouest de la France constate les dégâts quelques heures après le passage de la tempête Goretti. Le vent a soufflé fort, jusqu'à 216 km/h à la pointe nord-est du Cotentin. C'est même un record historique pour ce département, mais les conséquences auraient pu être plus lourdes, d'où le soulagement constaté ce matin dans la Manche, à Barneville, par notre reporter Antoine Geoffin.
Katia ouvre son agence immobilière dans le centre. La vitrine de son commerce est intacte. Dans sa maison, pas de casse non plus. Elle y a passé une nuit sereine, en famille.
On s'est mis en mode salon canapé-lit. On a dormi dans le salon en se disant qu'en cas de panne d'électricité, ben au moins on était prêt à partir le matin au travail.
Au café de la place, Arnaud avale son expresso après être passé au port à l'aube voir son chalutier qu'il avait bien amarré.
On a triplé les cordages quoi, sur les pontons. D'habitude, on en met une et c'est assez. Et il a pas bougé, il est toujours là.
Oh, c'est rassurant.
Voilà.
À côté de la plage, la voirie a dû dégager l'adjoint au maire dont la voiture a été ensablée sur le boulevard, 20 cm de sable. Il n'est pas blessé. Dans le bourg, les gilets oranges s'activent en ce moment pour dégager les rues. Jérôme, le directeur des services techniques.
Les arbres, il y en a, je sais pas, 25-30 de cassés. Il y en a sur la route. Mais sur les rues principales, ça va, il n'y a pas trop de casse. Il y a du boulot, oui. Oh, bon, on va y passer toute la journée. Hein. On est 15. On va tout sécuriser aujourd'hui, mais autrement, on finira demain et la semaine prochaine. Quoi. On s'en sort pas trop mal.
Au vu des dégâts ici à Barneville-Carteret, les pompiers venus en renfort la nuit dernière sont désormais en route vers l'est du Cotentin où la tempête a tapé plus fort.
Bilan humain de cette tempête, 29 blessés légers, un blessé grave dans le nord, un homme qui est monté sur son toit en pleine tempête pour remettre en place une tuile. Des milliers de foyers toujours privés d'électricité, 320 000 au total, 229 000 en Normandie, 17 500 en Bretagne où Johan Moison s'est rendu sur l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor, avec là encore des rafales de vent exceptionnelles pour la saison.
Oui, 152 km/h enregistrés sur l'île, c'est un record pour un mois de janvier. Les Bréatins n'ont pas tous très bien dormi, comme nous l'a confié Philippe en descendant du premier bateau tout à l'heure.
Hier soir, déjà, ça a soufflé fort, vers 19h, 20h. J'ai même une fenêtre qui s'est ouverte dans la chambre. Et dans la nuit, ça soufflait très fort. Mais heureusement, chez moi, il n'y a pas d'arbre, donc rien n'est tombé. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Ouais. Et on ne dort pas très bien, ça c'est clair. Ouais. Ça fait du bruit dans les relais, ça siffle, etc. Mais bon, c'est pas la première et c'est pas la dernière.
Alors malgré ces rafales records, comme ici sur l'île de Bréa, tout le monde est assez soulagé ici ce matin, car la tempête n'a pas occasionné de gros dégâts dans les Côtes d'Armor. Quelques arbres sur les chaussées, 8 toitures endommagées et des fils électriques tombés au sol. Ne les touchez surtout pas, rappelle au passage la préfecture, Enedis s'en occupe. Il reste aussi quelques branches sur les routes.
Reportage ici Armorique. C'est un vol de données qui a eu pour conséquence de nombreux cambriolages chez des licenciés de la Fédération française. Cesse de tir. Le piratage avait eu lieu mi-octobre. Eh bien, un jeune homme suspecté d'en être l'auteur vient d'être interpellé. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Il est âgé de 18 ans.
Oui, un adolescent doué en informatique qui n'était jamais apparu dans les radars des grands services cyber de la police ou de la gendarmerie. C'est en enquêtant sur les traces de l'attaque laissée dans les serveurs de la Fédération française de tir sportif que les enquêteurs de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire parisienne ont géolocalisé l'adresse IP de l'ordinateur de ce jeune homme à Aubervilliers, près de Paris. Un jeune homme soupçonné d'avoir effectivement participé à la fuite de près d'un million de propriétaires d'armes pour du tir sportif. Est-ce qu'il avait conscience que diffuser les adresses personnelles sur Telegram et certains forums cybercriminels du dark web allait entraîner cette série impressionnante de cambriolages, de vols parfois avec violence? On peut citer Dessines-Charpieu près de Lyon en novembre dernier, 5 armes de poing dérobées, Limoges, Paris, Nice, Nice. Est-ce que ce pirate informatique français qui a été présenté ce matin à un magistrat, selon nos informations, a agi tout seul ou encore une fois, comme pour d'autres ados arrêtés ces derniers mois, il a pu bénéficier d'outils de piratage fournis par des groupes criminels russophones, par exemple. Le parquet de Paris, dans un communiqué, affirme que les enquêteurs cherchent à identifier une équipe qui aurait agi avec ce jeune suspect.
Emmanuel Leclerc, à Lyon, la justice soupçonne un crime avec un motif raciste après la découverte mardi matin du cadavre d'un homme maghrébin âgé de 20 ans dans un étang près de la ville, commune de Loire-sur-Rhône. Un homme est en garde à vue, indique le parquet. Dans les Bouches-du-Rhône, trois agents de la prison d'Aix-Luynes ont été violemment agressés par un détenu ce matin. Agression avec une paire de ciseaux. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Marseille. Mathilde, l'un des trois agents a été gravement touché, mais ses jours ne sont pas en danger.
Oui, l'agression a eu lieu vers 8h ce matin. Les surveillants étaient venus chercher un détenu pour l'emmener dans le bureau du chef de bâtiment pour un entretien. Et c'est dans ce bureau qu'il s'en est pris aux agents. Avec une paire de ciseaux, il a blessé un premier surveillant au crâne. Puis il s'en est pris au chef de bâtiment. Il l'a mis au sol, l'a frappé au cou, à la tempe, au cervical, le blessant grièvement, explique une source syndicale. Un troisième agent est alors intervenu pour sauver son chef. Lui a été blessé plus légèrement au bras. Il a pu être soignés au sein de la prison. Les deux autres agents sont hospitalisés, mais leurs vies ne sont pas en danger. Le suspect a été placé en garde à vue. Il est âgé de 23 ans, détenu pour agression sexuelle sur conjointe. Il est arrivé à la prison d'Aix-Luynes l'an dernier, transféré après des faits de violence sur des agents à la prison d'Avignon. C'est un détenu connu pour être bagarreur, violent, précise une source syndicale.
Mathilde Vinceneux en direct de Marseille, tandis qu'à Bordeaux, le maire sortant, l'écologiste Pierre Urmic, annonce ce matin qu'il va briguer un nouveau mandat, candidat donc aux prochaines élections municipales, lui qui avait fait basculer la ville à gauche en 2020.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Voilà des mois que le phénomène dure sur le réseau social X. L'assistant d'intelligence artificielle de ce réseau baptisé Grok permet de générer des images de femmes ou de mineurs dénudées, tout cela en conservant les vrais visages des personnes visées. En France, des plaintes ont été déposées, des victimes de l'incendie de Grand Montana en Suisse en ont même été récemment la cible, suscitant l'indignation. Et à présent, bonjour Luc Anitch.
Bonjour.
Le débat se place au Royaume-Uni qui envisage carrément d'interdire cette intelligence artificielle.
Oui, car depuis quelques semaines, des centaines d'utilisateurs de X demandent à Grok de modifier des photos de mineurs pour les représenter en sous-vêtements ou en bikini et l'intelligence artificielle s'exécute systématiquement, y compris pour les plus jeunes. L'Internet Watch Foundation au Royaume-Uni a repéré des images sexualisantes d'enfants de 11 à 13 ans. Des pratiques scandaleuses, dit le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui envisage donc d'interdire Grok. Mais en France aussi, les cas sont fréquents. Véronique Béchu de l'association e-enfance reçoit de plus en plus de signalements.
Ou des mineurs ou même des parents appellent pour indiquer qu'ils ont découvert sur les réseaux sociaux des contenus sexualisés de leurs enfants et partagés de manière non consentie.
Sauf qu'Internet n'oublie rien et ces images peuvent avoir de très graves conséquences pour les enfants.
Ces contenus vont rester définitivement en ligne, vont être partagés au sein des réseaux pédocriminels. Il sera ponctuellement possible de les supprimer, mais jamais de les faire disparaître.
Ces montages constituent un délit, rappelle Véronique Béchu, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Début janvier, le parquet de Paris avait été saisi pour enquêter dessus. Hier, c'est la Commission européenne qui a elle aussi resserré la vis. Elle a imposé juridiquement à Grok de conserver toutes les images jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir les inclure dans son enquête.
Lucas Nitsch, là c'est la technologie pour nous aider à nous déplacer et à éviter les bouchons. On en a beaucoup parlé ces dernières heures de ces bouchons entre les actions des agriculteurs et les intempéries. La neige notamment. Mais qu'est-ce qu'un bouchon ? Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
Le critère aujourd'hui, ce ne sont pas des véhicules à l'arrêt, pas du tout. Un bouchon, c'est officiellement quand des véhicules ne dépassent pas les 30 km/h.
Oui, c'est en tout cas à partir de ce seuil que cela peut se matérialiser sur les courbes ou les cartes, ce qui fait qu'on a pu, pendant les intempéries cette semaine, aller un peu trop vite dans l'interprétation de ces données. Un bouchon, en fait, c'est une situation durable et pas un simple coup de frein. Mais le calcul, en effet, se fait surtout grâce à des capteurs fixes sur les routes qui mesurent le débit, la densité et surtout la vitesse vitesse moyenne et pendant un certain temps, cette vitesse est passée sous les 30 km/h. Il y a donc bien eu cette semaine congestion, mais pas forcément bouchon, explique à nos confrères d'ici Sophie Dupas de la direction des routes d'Île-de-France.
C'est notre modèle de calcul hein, des kilomètres de bouchon qui est lié à la vitesse. Donc ça circulait, il n'y avait pas de bouchon réel d'arrêt sur autoroute. Le logiciel compte, dès que vous êtes à moins de 30 km/h, c'est conséquent bouchon et ça ne donnait plus bouchon après 60 km/h. Or, de remonter à 60 km/h, c'était pas le cas.
Ça a donc recommencé à rouler, mais sous ce fameux seuil de 60 km/h, ce qui explique pourquoi sur vos cartes Google Maps ou Waze, le trafic pouvait rester plus ou moins fluide.
Justement, sur ces cartes, sur ces applis, qu'est-ce qui déclenche le passage en rouge ?
Eh bien, eux fonctionnent un peu différemment avec les données des smartphones des utilisateurs qui fournissent en continu position, vitesse, heure, direction. Ils calculent une vitesse réelle moyenne qu'ils comparent à une vitesse de référence. Alors, ni Waze ni Google Maps ne rendent public leur seuil exact, mais on estime que le rouge se déclenche quand la vitesse moyenne agrégée passe sous les 40 à 50% de la vitesse normale sur un tronçon donné à une heure donnée.
Ouais, ce serait bien de se mettre d'accord que tout le monde parle de la même chose quand on parle de bouchons. Merci Sarah Mansoura. C'est une première dans l'histoire de la Station Spatiale Internationale. Un équipage va rentrer plus tôt que prévu. C'est en raison d'un problème médical qui touche l'un des astronautes. Ils sont quatre. En ce moment, ils sont partis début août. La mission aurait dû durer 6 mois. Elle va donc durer un peu moins longtemps. C'est l'équipe de la Française Sophie Adnaud qui va les relever. Rentrer sur Terre pour un problème de santé, même s'il n'est pas grave visiblement, ça n'était jamais arrivé. Mais la NASA, Sophie Becherel, ne nous donne que très peu d'informations.
Homme ou femme, en effet on l'ignore, le patron de la NASA n'a donné aucun indice. Ce que l'on sait, c'est que l'équipage concerné est composé d'une femme et de 3 hommes, 2 Américains, 1 Japonais et 1 Russe. Pour 2 d'entre eux, le Russe et l'Américaine Zena Cardman, c'est la première mission. Peut-être connaissent-ils le mal de l'espace. C'est un inconfort éprouvant, c'est comme le mal de mer en apesanteur, sans haut ni bas, l'oreille interne ne parvient pas à donner au cerveau des informations cohérentes, on est malade et pour travailler c'est quasiment impossible. Pourquoi pas une rage de dents ? A priori, tous les astronautes passent chez le dentiste avant de partir. Ils sont exempts de problèmes cardiovasculaires. Et pour la bobologie, ils savent faire. Prise de sang, échographie, test urinaire, la trousse à pharmacie est bien remplie. Après le départ de ces 4-là, il restera 3 astronautes dans l'ISS, 1 Américain et 2 Russes. Mais 3, c'est insuffisant, d'où la forte probabilité que le vol de Sophie Adnaud parte plus tôt, c'est-à-dire avant le 15 février. Sa mission pourrait s'avérer encore plus intéressante, car son équipage pourrait être chargé de la sortie dans l'espace initialement programmé aujourd'hui et qu'il a fallu repousser à cause de ce problème médical.
Explication signée Sophie Becherel. Et voilà 2 affiches de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'annoncent très suivies en France. Ce soir, premier quart de finale 17h entre le Mali et le Sénégal et le second à 20h à Rabat entre le Maroc, pays organisateur, et le Cameroun. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Et puis à partir de 13h30, on va revenir sur l'une des informations de la matinée, les 27 qui valident l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine. L'homme qui a longtemps dirigé ces négociations sur le Mercosur est notre invité. Pourquoi la France est-elle l'une des seules en Europe à dire non ? Vous pouvez ajouter d'autres questions, 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton dans cette commune du Doubs, où on est maire de père en fils, et vous verrez que pour la secrétaire de mairie, ça se passe aussi en famille. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Virginie Troussier, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous avez fait votre liste de courses.
Oui, en ce début d'année, il y a les vœux, et en montagne aussi, on formule les nôtres. Des vœux d'ascension, des sommets rêvés. Aujourd'hui, on parle de liste de courses et ce qu'elles disent de nous.
Des courses en montagne, bien évidemment. Et avec vous, Frédéric, un comédien.
Michael Delis, qu'on peut voir actuellement sur la scène de la Scala à Paris, dans 3 spectacles, la trilogie du troisième type. Et avec lui, nous écouterons Toxic de Britney Spears, la chanteuse qui a déclenché son amour de la danse.
On soufflera aussi quelques dizaines, quelques centaines de bougies ensemble, mais je n'en dis pas plus. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Si je vous passe ça... Ça vous dit quelque chose?
Ce samedi, 20h-22h, Mishka Assayas.
10 ans après sa disparition, je vous raconte David Bowie. Un artiste qui a toujours été en avance sur son époque et qui, encore aujourd'hui, se révèle par sa musique comme le visionnaire des temps actuels.
Mishka Assayas raconte David Bowie.
C'est ce samedi, à 20h, sur France Inter.
Et retrouvez le hors-série Very Good Trip David Bowie de 22h à 6h.
Les belles promesses, c'est le roman événement de Pierre Lemaître. Des travaux titanesques dans tout Paris. Un bébé réchappé d'un incendie, le cœur d'un homme écartelé, un monde rural menacé, des femmes sorties de l'oubli et un effroyable dilemme moral. Au bout du chemin, pour la famille Pelletier, ce sera l'effondrement ou l'apothéose. Par bonheur, le chat Joseph veille encore. Les belles promesses, un roman déchirant et enthousiasmant de Pierre Lemaître aux éditions Calman Lévy.
Retrouve-toi avec tes amis grâce à l'abonnement Basic Fit Ultimate. Rejoins le club où tu te retrouves dès aujourd'hui et profite de 5 semaines offertes. Promotion valable du 29 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus. Voir conditions sur basicfit.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un ciel encore agité cet après-midi.
Oui, même si le gros de la tempête Goretti est passé, on a encore de bonnes rafales de vent sur l'ensemble du territoire. 60 à 80 km à l'heure dans les terres, 90 km à l'heure sur le Roussillon et le nord de la Corse, jusqu'à 120 km à l'heure sur le sud de l'Aquitaine pour les rafales les plus fortes, selon Météo France, qui maintient d'ailleurs les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour ce même vent. Le ciel est agité un petit peu partout avec des averses. On a les plus régulières au nord de la Seine, du Jura aux Alpes. Et puis on a encore de la neige sur les massifs à assez basse altitude, de bonne quantité, hein, jusqu'à 30 cm sur les Alpes du Nord, 15 à 20 cm d'ici demain. Attention au manteau neigeux très instable et au risque d'avalanche élevé sur tous ces secteurs.
Et les température rebaisse un petit peu.
Oui, la moyenne va de 5 à 10 degrés du nord au sud. C'est un petit peu plus doux près de la Méditerranée. On a même 17 degrés à Bastia où le ciel sera changeant, comme sur l'est de la Corse avec des averses et de la neige sur les sommets. Des températures qui vont encore baisser un petit peu ce week-end. Et on attend un redoux pour la semaine prochaine.
Merci Céline Dacosta. 13h31 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Jean-Luc Demarty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Jean-Luc Demarty, vous avez été conseiller de Jacques Delors quand il était président de la Commission européenne, avant d'être vous-même directeur général de l'agriculture à la Commission, puis du commerce jusqu'en 2019. Et à ce titre, vous avez mené une partie des négociations qui ont abouti ce matin à la validation par les 27 pays de l'Union européenne de l'accord de libre-échange avec 4 pays d'Amérique du Sud. Cet accord Mercosur avec ces 4 pays, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, et un accord malgré l'opposition de quelques pays et notamment de la France. On va en parler ensemble dans les prochaines minutes avec nos auditeurs également. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent vous interroger. Vous passez également via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Est-ce que l'accord de ce matin, Jean-Luc Demarty, est historique? Et si oui, l'est-il parce que le texte, le traité, l'accord est conclu, ou parce qu'un pays fondateur, la France, y est opposé?
Accord historique, c'est un peu excessif. C'est un accord très important parce que c'est avec 270 millions d'habitants en Amérique latine. On a des accords de libre-échange avec tout le reste de l'Amérique latine. Et donc, de ce point de vue, c'est effectivement un accord très important économiquement, mais aussi politiquement et géopolitiquement. Donc, de ce point de vue, c'est incontestable. Alors, que la France soit dans la minorité, effectivement, c'est peut-être nouveau, mais là, je dirais que la France, cet accord Mercosur, d'une certaine manière, c'est un naufrage français. Je veux dire, la gestion...
Un naufrage
Un naufrage français, oui, effectivement. C'est un naufrage français, puisque, en réalité, on est côté français dans le déni de réalité. Si effectivement l'agriculture française et l'agroalimentaire français a des problèmes aujourd'hui qui sont incontestables, d'ailleurs ça dure depuis 15 ans, dû à une très mauvaise politique agricole et économique française. Quand j'ai quitté la direction générale de l'agriculture en 2010, tout allait bien. Et en réalité, aujourd'hui, ça va mal. Mais les accords de libre-échange de Mercosur n'ont absolument rien à voir avec ça. Et ils ont même été positifs, contrairement à ce qu'on raconte. Je parle des accords de libre-échange déjà conclus, à l'agriculture, à l'agroalimentaire européen et français. Donc là, on raconte à peu près n'importe quoi sur le sujet. Et toutes les protections, toutes les précautions ont été prises dans l'accord de libre-échange avec le Mercosur, parce que c'est la zone la plus compétitive du monde dans les produits agricoles les plus sensibles, le bœuf, la volaille et le sucre. On a pris toutes les précautions en ne leur donnant accès qu'à des quantités très faibles.
On va revenir à ces précautions, à ces clauses aussi qui ont été prévues. Mais est-ce que c'est pas, je reprends votre expression de naufrage, est-ce que c'est pas aussi un naufrage démocratique? On voit qu'en France, on a une unanimité de la classe politique contre. contre cet accord. Il y a des manifestations, des agriculteurs, très peu de voix qui s'expriment pour. Et finalement, eh bien, le nom de la France n'empêche pas que cet accord puisse entrer en vigueur.
Écoutez, il y a des règles au niveau de l'Union européenne. Je veux dire, les choses se décident à la majorité qualifiée des États membres et à la majorité simple du Parlement européen. La France est dans le déni de réalité. C'est parce qu'il y a, une unanimité française sur une position qui, à mon avis, est une position qui n'a pas, qui est une position émotionnelle, qui ne se fonde pas sur une analyse réelle, que c'est un déni de démocratie. D'ailleurs, ce que j'observe, c'est que les grandes politiques de l'Union européenne se décident à la majorité qualifiée du Conseil et avec le Parlement européen seul. Si il devait y avoir, par exemple, ratification des parlements nationaux, on n'aurait pas de politique agricole commune. Elle n'existerait même pas.
On n'est pas tout seul hein, à s'être opposé. Je crois que la Pologne, la Hongrie, l'Irlande, l'Autriche continuent de dire
assez,
non.
C'est pas assez. C'est une minorité. Bon, quand on est dans les minorités et quand on choisit d'être dans la minorité avec des arguments qui sont à peu près qui ne valent rien, je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas beaucoup d'alliés.
Ça va laisser des traces, Jean-Luc Demarty, le fait que la France, pays fondateur de l'Union, encore une fois, s'oppose et voit son vote finalement vain.
C'est la poursuite de l'affaiblissement de la France. Quand Emmanuel Macron est arrivé, moi j'étais encore directeur général, on pensait qu'il allait renforcer la voix de la France en Europe. Et quand on va faire le bilan, après son départ, on va constater qu'il a affaibli la France en Europe.
Vous auriez souhaité qu'il prenne position contre l'ensemble de la classe politique, en fait, qu'il ait ce courage-là, je ne sais pas si c'est le mot adapté.
Non, je pense que la question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation correcte de ce débat. Il n'y a jamais eu de vrai débat en France sur cet accord. Il y a eu tout un tas d'affirmations erronées qui n'ont pas été contestées par les politiques français. Et en réalité, bon, on a essayé avec ce mirage des clauses miroirs. Pour expliquer pourquoi ça peut pas marcher, je veux dire de créer, de bloquer toute possibilité de conclure cet accord. Donc en réalité, comme d'habitude, Emmanuel Macron a surévalué sa main. Il a cru qu'il était plus malin que tout le monde, et en réalité, il s'est mis dans un corner dont il pouvait pas sortir au lieu d'essayer de faire de la pédagogie. Je sais bien que c'était très difficile dans le débat politique français, mais au moins on aurait pu essayer. Moi, je me bats depuis 2 ans puisque j'ai ma liberté de parole, j'écris beaucoup sur le sujet, et je vois dans les médias français que maintenant que on commence quand même à s'interroger sérieusement sur la position prise par la France sur cet accord.
Pourquoi vous mettez en doute les clauses miroirs, Jean-Luc Demarty ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, c'est un sujet un peu compliqué. En réalité, tous les produits qui rentrent à l'intérieur de l'Union européenne doivent respecter nos normes sanitaires et phytosanitaires, accord de libre-échange ou pas. Et en plus, ils ne peuvent pas avoir été produits engraissés pour les viandes à partir d'hormones ou d'antibiotiques. Par contre, je veux dire, les produits les pays qui produisent en dehors de l'Europe, l'autre débat des clauses miroirs, c'est de leur dire, vous allez produire comme nous, avec nos mêmes conditions de production. C'est pas les conditions, je dirais, des produits et du contenu des produits et des résidus qui peuvent rester dans les produits, c'est les conditions de production en matière environnementale, de bien-être animal, etc. Et donc, vous ne pouvez pas demander au reste du monde d'appliquer les mêmes conditions de production que nous, et là s'agissant du Mercosur, pour un accès ridicule à notre marché de 1,5% de notre consommation interne. Et en plus, je voudrais rappeler que nos agriculteurs touchent 40 milliards d'euros annuellement d'aide aux revenus, 7,2 milliards d'euros en Europe, pour compenser, en tout cas c'est pas la seule raison, mais une bonne partie de ces aides est due pour la compensation entre les coûts de production les coûts de production européens et les coûts de production des pays tiers qui sont les plus compétitifs dans le monde, comme le Mercosur.
Mais ça d'ailleurs, veut dire Jean-Luc Demarty, si je
donc
vous comprends
pas,
bien,
c'est pas possible, c'est pas négociable.
D'accord,
c'est pas
négociable. Mais ça veut dire que demain un éleveur de bovins français va se retrouver en concurrence directe avec un éleveur argentin, mais avec des conditions de production complètement différentes et des obligations pour lui qui ne s'appliqueront donc pas à l'éleveur argentin.
C'est pas vrai sur les hormones et sur les antibiotiques. S'il y a d'autres conditions environnementales ou autres, oui, elles ne s'appliqueront pas. Mais en réalité, je veux dire, pour une raison très simple, c'est que en réalité, les éleveurs argentins ou brésiliens n'auront qu'un accès très faible à notre marché. Et donc, pour 1,6% de notre consommation interne, on ne peut pas leur demander de s'aligner complètement sur nous. C'est complètement irréaliste. Et d'autant, comme j'explique, que nos producteurs sont déjà compensés pour cela. Et in fine, il y aurait pu avoir une logique de clause miroir intégrale si on avait libéralisé totalement. C'était hors de question. Si on libéralise totalement, même avec la clause miroir, je peux vous dire que l'agriculture européenne et française, en viande bovine, en volaille et en sucre, est complètement écrasée par le Mercosur. Et j'observe aussi que si on fait des clauses miroirs, je veux dire, de ce type qu'on cherche à les imposer, ce qui est totalement irréaliste, qu'est-ce qu'on va faire si des pays avec lesquels on a des accords ou pas d'accords, où on exporte, on est plus compétitif qu'eux, nous disent « vous pourrez exporter sur notre marché, mais à condition que vous respectiez, nous, nos normes de production ». Je ne parle pas des normes sur les produits.
Sur le fond, Jean-Luc Demarcy, ça veut dire que dans les prochaines semaines, on va avoir une zone, donc les 27 plus les 4 pays d'Amérique du Sud, sans droit de douane sur tous les produits, c'est-à-dire qu'on achète un produit fabriqué au Brésil ou en Allemagne, ce sera pareil ?
D'abord, il y a une montée en puissance. Le désarmement des droits de douane est progressif. Hein. Donc, ce n'est pas demain matin.
D'accord.
Hein. Donc,
on ne les baisse pas d'un coup.
Pour les contingents tarifaires. Et d'ailleurs, il y a aussi des contingents tarifaires. Je veux dire, sur les produits laitiers, on va gagner. Bien sûr, ils nous ont mis des contingents tarifaires aussi. C'est de bonne guerre. C'est normal. Et donc, ça va prendre du temps.
Des deux côtés, on va baisser les droits de douane petit à petit.
Petit à petit. Mmh. Et en gros, c'est 90% de désarmement tarifaire de part et d'autre.
90%, d'accord.
90-90% en valeur de commerce. Donc ce qui est ambitieux, mais il reste quand même toute une partie, et notamment en agriculture, qui n'est pas libéralisée, qui reste très protégée, justement par ces contingents tarifaires, qui sont une protection énorme.
Qu'est-ce que vous appelez contingent tarifaire, pour le dire plus clairement ?
Contingent tarifaire, c'est des quotas d'importation.
D'accord.
Quand je dis 1,6, les 90
tonnes... C'est limité.
Les 99 000 tonnes de viande bovine, en équivalent carcasse, en gros, ne pourront pas être dépassées.
Question de Michel du Var, pour vous Jean-Luc Demarty, si le Parlement européen refuse l'accord, celui-ci sera-t-il caduque ?
Ah ben, bien entendu, il faut, et c'est pas tout à fait gagné encore, c'est clair qu'il y a une majorité qualifiée des États membres pour la signature. On est stade de la signature, pas de la ratification. Après, il y a la ratification. Bon, s'il y a la majorité qualifiée pour la signature, il sera là pour la ratification. Et il faut une majorité simple du Parlement européen. Et ce sera assez serré. Je reste raisonnablement optimiste, mais c'est pas certain absolument.
Question de Thierry, qui est avec nous, département de la Loire. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais pousser une question, parce que autant je comprends tout à fait les revendications des agriculteurs par rapport au problème de distorsion de concurrence des produits qui sont élaborés en Amérique du Sud. Par contre, j'entends aussi que ça fait 25 ans qu'on négocie. Et pourquoi avoir attendu le jour de la signature pour manifester de façon aussi importante et bloquer la France quelque part ?
Merci pour cette question Thierry. Jean-Luc Demarty, bon, ça fait longtemps quand même que les agriculteurs s'opposent à ce texte, ou bien leur position a évolué, les agriculteurs français et leurs représentants ?
C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais été favorables à cet accord, ça, je le conteste pas. Mais si vous voulez, on a une cristallisation aujourd'hui, parce que l'agriculture française et l'agroalimentaire français va mal. Et ils vont mal à cause de la politique française. On parle de distorsion de concurrence. En réalité, vu les protections qu'on met en place, les distorsions de concurrence auront un effet très faible du fait du Mercosur. Par contre, la France s'impose elle-même des distorsions de concurrence négatives. Elle pénalise son agriculture et son agroalimentaire par rapport au reste de l'Europe, par sa propre politique. C'est là que ce sont les distorsions de concurrence auto-infligées par la politique française. Et ça remonte à loin. Hein, ça, c'est pas seulement... Enfin, c'est les 15 dernières années. Enfin, à mon avis, ça commence avec le Grenelle de l'environnement de Sarkozy. Et ça continue après de plus belle.
Dernière question pour vous. Marc du Nord qui nous dit « Le grand gagnant de cet accord, c'est l'Allemagne. La firme Bayer, nous dit-il, a racheté Monsanto, va pouvoir vendre des semences génétiquement modifiées dont elle a le brevet. » Jean-Luc Demarty, un commentaire.
Je veux dire, tout le monde va en profiter. Je veux dire, raconter que c'est l'Allemagne qui gagne et que la France perd, c'est ridicule, parce que la France a encore des intérêts industriels, même s'ils sont plus faibles que ceux des Allemands. On a l'aéronautique, on a la santé, on a le luxe, on a en agroalimentaire les vins spiritueux, les produits laitiers. Donc tout ça sont des intérêts offensifs qui vont être très bien servis dans cet accord. Donc dire c'est l'Allemagne qui gagne, c'est vraiment ridicule. Quant aux OGM, c'est pas le débat, mais je dirais sur les OGM, je rappelle que il y a 200 millions d'hectares milliards d'OGM dans le reste du monde et on ne voit aucun effet environnemental, aucun effet négatif sur la santé. Mais je ne veux pas ouvrir ce débat maintenant.
Et il aura lieu plus tard sur cette antenne. Merci Jean-Luc Demarty
pour débattre de ce sujet aussi
en ligne avec nous aujourd'hui depuis Bruxelles pour cette opinion, ce point de vue sur cet accord Mercosur qui a donc été validé par les 27 ce matin. 13h44 sur Inter. Lors de notre feuilleton, nous sommes toujours dans notre commune du Doubs, plus 100, moins de 200 habitants, où l'on est maire, de père en fils depuis 1818, plus 100, qui partage sa secrétaire de mairie avec d'autres communes. Et là encore, vous allez l'entendre, c'est une histoire de famille.
Est-ce qu'on a reçu donc le mail pour le repas des anciens ?
Oui, pas de souci, je suis en train de comptabiliser les gens, mes femmes, et puis il faut faire un retour au restaurant pour le nombre de convives. Environ une quarantaine. Je finalise les inscriptions et je confirme au restaurant. Je m'en occupe. Mairie de Blussan, bonjour. Je m'appelle Lucille Tourtier, je suis secrétaire de mairie depuis 10 ans maintenant et je suis en poste sur 5 collectivités, donc Blussan, Bournois, Étrappes, Fimbes et Soie.
On a construit, oh là là, il y a au moins 47 ans, quelque chose comme ça, regarde voir.
Déjà un dos d'hiver.
C'était le papa, c'était le grand-père. Le grand-père, il a été aussi ?
Oui.
Alors, je sais plus, Gigi, Ghislaine. Voilà, Ghislaine Burtain et Aubry. Parce qu'on est arrivé ici en 1977 ou quelque chose comme
ça.
C'était
déjà le papa.
Voilà.
Alors, j'ai plus ou moins d'heures suivant les collectivités. Il y a une commune où je fais que 2 heures par semaine, mais je ne peux pas me permettre de ne pas regarder la boîte mail. Et sinon, 10 fois, je suis le matin ici, l'après-midi là. Le mercredi, je suis dans 3 endroits différents au long de la journée, mais je gère et pour l'instant, ça se passe bien. Une facture EDF, elle doit être imputée, signée et transmise à ma comptable, entre autres. Voilà. Puis on a fait le point sur le repas des anciens et d'autres petites choses courantes. Ça a beaucoup évolué. On a moins de compétences. Par contre, comme je vous le disais, il faut regarder les mails tous les jours parce que la communication se fait quasiment à 95% par mail et il faut, je pense, une présence quotidienne.
Alors, on ne va pas trahir de secret, mais vous êtes la sœur de monsieur le maire ici à Blussan, donc encore une histoire de famille.
C'est ça. Il faut savoir que la maman était secrétaire de mairie. Donc, entre le papa et la maman, ils nous ont légué les gènes de la collectivité, on va dire, du village. Et puis, on a à cœur de poursuivre cette mission qui est, somme toute, très agréable, de toute façon.
Et vous-même, vous avez eu envie à un moment d'être maire, conseillère municipale ou...
Non, j'aurais pas le statut. Être entre guillemets dans l'ombre me va très bien et j'estime que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Donc pour moi, c'est très bien comme ça. Ma vie privée m'a emmené à déménager de Blussan, mais mon cœur et ma tête sont toujours à Blussan et je suis très fière de ce que nos parents nous ont transmis.
Et on la comprend, feuilleton signé Jérôme Val, réalisation Vincent Godard. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site de Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi et aujourd'hui exceptionnellement un petit peu plus tôt, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Virginie, c'est le début de l'année, on fait des projets et pour les alpinistes, cela consiste à enrichir sa liste ou son carnet de courses.
Avez-vous réfléchi, Jérôme, aux montagnes que vous souhaitiez gravir cette année ?
La butte Montmartre, peut-être, sans grande ambition.
Pour ma part, j'ai quelques vœux pour cet hiver et ce printemps. La Dent Parachée dans le massif de la Vanoise, la Grande Ruine, le plus beau panorama des écrins selon Gaston Rébuffat.
Ah, vous allez beaucoup plus haut, vous.
Et l'aiguille verte dans le massif du Mont Blanc. La liste de courses, c'est la liste des ascensions qu'un alpiniste a réalisées au fil de sa vie et qu'il cherchera toujours à enrichir.
s'enrichir.
Est-ce que cela ne transforme pas tout de même la montagne en cible et on oublie au final le plaisir d'y être ?
Si l'on ne souhaite pas devenir professionnel car les guides doivent présenter une liste de courses conséquente pour leur examen, cette logique peut en effet transformer la montagne en inventaire. Je pense alors au philosophe Pierre Zawi, auteur du livre « Beauté de l'éphémère » qui déplore, je le cite, « cette poisse actuelle qui transforme tous les désirs en devoirs, toutes les beautés en salut, tous les jeux libres en rituels. » En montagne, quand le corps s'élève, l'esprit ne devrait-il pas suivre ? La montagne offre la possibilité d'échapper aux ambitions vaines, de regarder la vie autrement. Mais la liste de courses offre aussi cela, à condition de ne pas confondre accumulation et expérience. Car ce qui change à mesure que la liste s'allonge, c'est le regard.
L'idée, c'est donc de mieux connaître la montagne.
Absolument, Jérôme. Et la liste peut devenir carnet de courses qui détaille les dénivelés, les conditions rencontrées, les anecdotes marquantes. On le remplit après chaque sortie et parfois même depuis la toute première randonnée. Un outil pour engranger de l'expérience en gardant une trace des paysages traversés et des émotions vécues. Peu à peu, ces aventures façonnent une identité. Un montagnard n'est pas seulement celui qui a gravi telle face, mais aussi celui qui s'obstine sur un sommet, celui dont on sait qu'il nourrit le rêve d'une ascension et avec qui l'on pourrait faire cordée. Même les projets laissés de côté, que l'on reporte de saison en saison, continuent de façonner notre âme de montagnard.
Car une ascension commence en fait bien avant d'arriver au pied de la montagne.
En effet, ce qu'il y a de beau dans la liste de courses, c'est ce désir de la créer. Un désir qui va être nourri par la lecture d'une carte, un récit, une photo, l'histoire d'un massif ou sa beauté, l'esthétique d'une ligne, l'architecture d'une pyramide et parfois simplement par un nom qui va enflammer l'imagination. N'a-t-on pas envie d'atteindre l'arête des cinéastes, toucher le doigt de Dieu, franchir le col des cristaux, rejoindre le mont perdu? Des noms qui font naître une multitude de projets qui s'accumulent plus vite qu'ils ne peuvent se réaliser. Mais ce n'est pas grave, la liste peut rester à l'état de rêve. Le rêve n'est pas ce qui manque, il est une force active qui soutient l'existence, qui lui donne sa consistance. Nous sommes faits de ce que nous vivons, mais aussi de ce qui demeure intérieur, de ce qui peuple nos pensées et nos images. Car c'est là que quelque chose se crée. Tout n'a pas besoin d'advenir pour compter, et il arrive même que ce qui reste en suspens parvienne à éclairer une vie.
L'arrête des cinéastes, où est-ce que ça
c'est
se trouve ?
C'est beau, hein ? Dans le Massif des Écrins.
Dans le Massif des Écrins. Merci Virginie Troussier de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est le comédien Michael Delis que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Michael Delis qui cartonne en ce moment à la Scala à Paris dans trois spectacles. Sa trilogie du troisième type, et c'est de Britney Spears qu'il a souhaité parler. Une chanteuse qu'il a découverte avec son tube « Baby One More Time ».
Je suis au Cap Ferré, j'ai 17 ans, je suis en première et c'est le lycée un peu triste où on est bon élève, complexé, un peu raillé parce qu'on n'est pas assez bonhomme, un peu trop féminin. Et du coup, arrive ce morceau-là et là se lance ma passion pour Britney Spears et tous ses tubes pendant, on va dire maintenant 3 décennies.
Dans votre tête, vous avez l'impression que c'est une révélation ?
Il y a quelque chose qui relève, je pense, de l'intuition. En fait, quand j'écoute cette musique, moi qui suis un bon élève, premier de la classe, un peu cérébral, j'ai l'impression qu'il se passe un truc dans le corps qui m'emmène à un endroit où je suis pas dans le langage et je découvre et comprends aussi que la danse est un moyen d'expression colossal et je découvre les sorties en boîte avec les copines et je vois aussi un endroit de plaisir très fort, de grande joie. Et là où je suis, moi, où je grandis, on fait ou du foot ou du surf et du rugby pour les plus solides. Donc la danse et tout ça, c'est interdit.
Vous écoutez fort dans votre chambre ?
En boucle, fort. Et je me rappelle très bien la chambre, la fonction repeat, mon frère dans la chambre d'à côté qui n'en peut plus. On écoute de la bonne musique à la maison. Mon frère écoute de la guitare, la maman écoute Barbara, les grands-parents écoutent du classique. Et là, il y a cet ovni pop qui vient et qui est assez transgressif aussi dans tout ce que ça représente. Ben là, il y a cette jeune fille avec des textes un peu simples, une musique triviale qui vient sans doute rencontrer tout ce qui me titille, moi, jeune ado. Qu'est-ce qui se passe ? Vers où me porte mon désir ? Et donc c'est vrai que ça réveille quelque chose de complètement dingue. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's
cette chanson de Britney Spears, c'est donc Toxic, Frédéric, 2004.
Et là encore, c'est un tube qu'adore Michael Delis.
Quand Britney Spears arrive, quel que soit l'endroit, si je suis en soirée, en anniversaire ou dans un magasin, quand ça passe, j'ai qu'une envie, c'est de danser, de monter sur la table, parce que je trouve ça extrêmement ludique. Et c'est vrai que quand Toxic arrive, pour le coup là, ça y est, je suis comédien, ma carrière est entre guillemets lancée, je sais ce que je vais faire. Il y a une sorte déjà de confiance au corps, de rapport à la chair consommée et découvert. Et ce morceau-là, quand ça passe, bon ben là, les gens savent qu'il faut s'arrêter, il faut faire de la place et qu'on va danser large et grand. Et ça, c'est vraiment très très joyeux.
Ça veut dire quoi, danser large et grand ?
On prend la place, on n'a plus honte, on ne se planque pas. Et c'est le moment d'assumer une liberté. Et aussi, c'est un moment où je me rends compte de ce que ça génère. C'est que cette liberté-là, je vois en plus qu'elle amuse, qu'elle inspire les autres. Et je me rends compte que ça fait aussi spectacle. Et ça vient nourrir mon désir aussi de produire, de me mettre en scène. Avec un grand sourire, quoi.
Est-ce que vous avez réussi à convertir certains de vos proches ?
Oh que oui. Et typiquement, quand Toxic, cet album In The Zone arrive, qui est hyper bien produit, même mon frère un peu snobish me dit « c'est quand même sacrément bien ». Et même lui le passe dans ses soirées, là je dis « waouh, là c'est un vrai endroit de victoire
Est-ce que vous diriez que les chansons de Britney Spears, elles vous ont aidé à devenir vous-même ?
Ah ouais, complètement. Complètement parce que il y a un truc de vraiment d'émancipation en fait. Comme si ça m'avait révélé à mon corps et dans un rapport au monde et aux autres. Et aussi, je crois, l'air de rien, au plaisir et à la chair. Parce que dans la danse, il y a quelque chose de jouissif qui n'est pas loin de ce qu'on touche avec la sexualité.
Quelque chose de charnel.
Complètement charnel.
Donc merci Britney.
Ah bah merci Britney, encore et toujours.
Toxique, Britney Spears. C'était donc, Frédéric, le choix de Michael Delis.
Michael Delis, que vous pouvez voir sur scène à la Scala à Paris avec sa trilogie du troisième type.
Merci Frédéric. Je ne vous dis pas tout de suite à lundi parce qu'on a un anniversaire à célébrer. C'est aujourd'hui la 1000e de cette chronique. C'est une chanson qui vous a donc amené très très loin, au moins jusqu'à 1000. C'est aujourd'hui, chaque jour, un artiste, une personnalité qui choisit une chanson qui lui est chère. On a entendu Michael Delis, il y a eu énormément d'artistes à ce micro depuis 1000 rendez-vous que vous nous offrez chaque jour avant 14h. Il y a beaucoup d'artistes qui ont souhaité vous dire aujourd'hui à quel point ils ont été heureux de participer à ce rendez-vous ou à l'écouter. On a choisi, par exemple, celui-ci.
Bonjour, c'est Alain Chamfort. Écoutez, je voulais remercier Frédéric Pommier pour cette 1000e épisode de l'émission C'est une chanson. Voilà, je trouve que c'est une émission magnifique qui replace la chanson là où elle doit être pour la célébrer. Les chansons, bah, elles ont ce pouvoir magique de nous accompagner pendant nos vies, de nous consoler, de nous encourager, enfin de nous faire ressentir un tas de choses, puisqu'elles arrivent à des moments où elles mettent les mots dans ce que nous sommes en train de vivre, et puis elles ont ce pouvoir de faire ressurgir ces instants bien des années plus tard, un peu comme un parfum, et d'un seul coup on retrouve précisément l'émotion que nous avons ressentie au moment où elle est rentrée dans nos vies et qu'elle nous a marqués à tout jamais.
Une chanson comme un parfum, hommage d'Alain Chamfort. Comment est-ce que vous le recevez, Frédéric Pommier ? On voulait vous faire cette petite surprise avec toute l'équipe du 13-14
aujourd'hui.
C'est une
très jolie surprise et c'est très beau ce qu'il dit Alain Chamfort. Alain Chamfort, je me rappelle, il m'avait parlé d'une chanson de Georges Brassens, c'est Patachou, qui s'appelait Papa Maman, ou Maman Papa, je ne sais plus dans quel ordre. Et il était très ému en parlant de cette chanson qui lui rappelait évidemment son papa et sa maman et sa petite enfance. Et c'est vrai que les chansons, les images qu'elles portent, même les chanteurs eux-mêmes, ils nous ramènent à des moments importants de notre vie. Et parfois ils marquent et parfois ils colorent d'une façon différente certains moments importants de notre vie. Et c'est un petit peu ça qu'il dit Alain Chamfort.
C'est ce qu'on découvre chaque jour avec vous, ces moments et ces surprises qui surgissent. Là aussi c'est un message un peu surprenant. C'est un autre chanteur qui nous a envoyé ce message il y a quelques heures.
Salut Frédéric, c'est Vincent Delerme. Écoute, il faut que tu saches que
un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Emmanuel Noblet et qui est un acteur de théâtre, a fait une école de théâtre à Limoges et il était dans la même promotion que ta sœur Anne-Sophie Pommier. Et à l'époque, pour un peu pour faire rigoler Manu, j'avais fait une chanson qui évoquait Anne-Sophie Pommier. Son nom était même dans le texte de la chanson. Mais je pense qu'elle a peu de chance d'être sélectionnée pour cette une chanson, vu que même moi, j'ai complètement oublié comment était la chanson. Mais bon, il fallait que tu saches ça. C'était le jour ou jamais. Salut.
Et ça amène des choses très personnelles, hein, Vincent Delerme, qui aurait pu faire une chanson avec cette histoire.
Il aurait pu, il en avait choisi une autre. Il en avait choisi une autre, je me rappelle très bien de cette interview aussi. Et Emmanuel Noblet, qui avait obtenu un Molière, oui, du Seul en scène pour son adaptation de Réparer les vivants, lui il avait choisi une chanson de Gainsbourg. Et c'était Je t'aime moi non plus, et je me rappelle très précisément de son histoire. Il racontait que petit ne voyait pas du tout ce que racontait cette chanson et qu'il écoutait avec ses sœurs dans leur maison à la campagne, et qu'ils écoutaient ça très fort et qu'ils faisaient eux-mêmes les gémissements qu'on peut entendre par Jane Birkin dans cette chanson, jusqu'à ce que leurs parents leur disent « mais ça va pas,
ça
mais
pas
ça
possible.
Va pas de chanter ça ». Et pour lui, c'était très innocent. Et quand il entend encore cette chanson-là, il la considère comme une chanson très innocente parce qu'il était un petit enfant innocent au moment où il l'a découverte.
Encore bon anniversaire, Frédéric, la millième aujourd'hui, on voulait vous la souhaiter. C'est aussi un petit avant-goût parce qu'on célébrera, et j'allais dire dans de plus grandes largeurs, dans de plus grandes proportions dans les prochaines semaines, ce rendez-vous avec des invités et d'autres surprises. On va danser grand et large